Sol majeur.
Sol majeur.
Sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Des yeux rieurs où se reflètent les poissons de l'enfance. Et puis une casquette vissée sur son regard de franc-tireur. Voilà l'image bonhomme que promène Gérald Blancourt sur les trottoirs du monde. Alors qu'on ne s'y trompe pas, même s'il a connu une jeunesse rebelle en Haïti, c'est l'un des héros des Cinq Glorieuses de 1946, il est resté, en 60 ans d'exil parisien, ce poète, peintre et photographe reporter engagé, voire séquestré par la douleur du monde. Son travail reflète un demi-siècle de mémoire pour dire notre planète. Alors question sans réponse probablement, sur quelle planète en sol majeur vit aujourd'hui Gérald Blancourt?
J'ai mal au monde qui meurt. J'ai soif et bois mes pleurs humiliées des gorgées disparates. J'ai mal aux tripes de ma planète. J'ai l'oubli de mon chapelet d'enfant. J'ai la mémoire de celui des bombes à vomir en mon humanité ravagée. J'ai aux quêtes d'espérance vaine, au fracas des armes, mes raidis de ruines, luisantes de larmes, gluantes de sang. Fleurs fendues d'acier sur mes volcans éteints, bourgeonnant de râles. J'ai mal à mon baiser, j'ai mal à mes frères africains, sud-américains, à ceux de mon espèce, aux humbles violets, à ceux d'Irak, de Malaisie, de Papouasie, à ceux de Singapour, du Nicaragua, de Grenade, de Panama, de Cuba, d'Haïti, de Saint-Domingue, de Guadeloupe et de Martinique. J'ai mal au métèque que je suis. J'ai mal aux battus, volés, séquestrés, écrasés, pulvérisés, brûlés. J'ai mal au monde qui s'abîme, brûle, se consume. J'ai mal aux toxins des injustices milliardaires, à la faune, aux pélicans pétrole. J'ai mal à ma gorge nouée de vipères yankees. J'ai mal à ma tendresse, au bonheur, à la neige qui tombe sur les tombes et sur Paris en ce 6 février 1991. J'ai mal à la poésie sacrifiée de l'espèce humaine. J'ai mal aux étoiles, au labeur, à la culture. J'ai mal à la littérature désuète. J'ai mal au regard d'amour. J'ai mal à mes habitudes de vivre. J'ai mal à l'espoir. J'ai mal au monde que j'habite.
Bonjour Gérald Blancourt.
Bonjour.
Merci pour la lecture de ce poème donc intitulé « J'ai mal au monde » que vous avez écrit en 1991 au moment de la guerre du Golfe. Alors je crains bien que toute une émission de radio ne suffise pas pour dire votre travail de photographe reporter, de peintre et puis de poète aussi. Mais vous m'inspirez quand même une première question, vous qui traitez toujours de l'actualité. Est-ce que poésie et information, ça peut faire forcément bon ménage ?
Je crois que c'est obligé et ça fait partie l'un de l'autre. Quand on est honnête, quand on est engagé dans ce métier de d'informer, de dire, de transmettre, et quand on est comme je l'ai été et reporter, on a les yeux ouverts sur le monde, on regarde ce qui se passe, on voit les visages des gens, on voit les cicatrices, les blessures, les sourires, et quand on veut transmettre, eh bien, je crois que la seule façon de faire, c'est de le dire, et le fait même de le dire, c'est déjà de la poésie.
Alors, j'ai regardé le portrait que vous consacre Mehdi Lalaoui. Il signe un joli portrait du photographe que vous êtes, intitulé Gérald Blancourt, un regard haïtien. Et justement, je me suis interrogée sur ce terme de regard haïtien, vous qui êtes frère de l'humanité. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, un regard haïtien, dans le cas d'un photographe comme vous, qui zoome autant sur les mineurs du Nord des années 60 que sur les femmes soldats du Front Polisario?
Bien, vous savez, je suis né en Haïti, dans un petit village qui s'appelle Benet, et non loin de Jacmel. Et j'ai grandi, j'ai vécu les cyclones, j'ai vécu les espèces de révoltes, de révolutions, les têtes coupées, figées sur les pics qui se baladaient au-dessus des foules. Et toute ma jeunesse, toute ma culture, le bruit des tambours qui descendaient des montagnes, et la nourriture, la façon de parler, notre créole, et notre français créole. Et j'y ai pris mes racines.
Alors vous le savez sans doute, dans cette émission sur la double culture, il y a des questions en sol majeur auxquelles vous allez être soumis, Gérald Blancourt. Et puis il y a des chansons, vos chansons à vous. Et la première que vous avez choisie, c'est la Dessalinienne. Vous allez nous la présenter. Je me disais que vous n'y allez pas de main morte. Question symbole.
La Dessalinienne. Dessalines a été un des dirigeants des esclaves qui travaillait avec Toussaint Louverture à la libération, à la fin de l'esclavage en Haïti. Et ça a été la première défaite de Napoléon. Et donc le chant national haïtien porte son nom, la Dessalinienne. C'est le chant national qui fait vibrer le cœur de tous les Haïtiens à travers le
vous
monde.
Fait vibrer, vous,
et qui me fait vibrer parce que ça a bercé mon enfance, ça a bercé mes espérances. Et la musique, je vous ai fait passer cette musique, mais il n'y a pas, les paroles n'y sont pas, mais je pourrais vous les fredonner si vous
voulez. Mais vous n'y couperez pas, Gérald Blancourt. Alors un chant national sans paroles, c'est un peu dommage, hein, c'est plus du tout un chant national, donc c'est ce qu'on va faire, on va la remettre, et puis vous allez nous la chanter avec les paroles, c'est parti,
si vous voulez.
Le chant national, donc la Dessalinienne.
De m'en rappeler totalement, mais enfin je vais essayer.
C'est pardonné d'avance.
Les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de traître. Du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres.
En sol majeur, donc, au garde à vous de cette Dessalinienne, chère au cœur de notre invité Gérald Blancourt, superbe interprète, les mots intacts.
J'ai la voix cassée aujourd'hui.
Non, faites pas le coquet. Gérald Blancourt, né en Haïti, 60 ans d'exil plus tard, il est tranquillement installé dans le fauteuil d'en sol majeur.
Que savez-vous de vos ancêtres ?
Mes ancêtres, mon père est un Guadeloupéen qui a fait la guerre de 14-18 en France et qui a connu ma mère en France. Ils sont partis en Haïti, retrouver un oncle qui y habitait déjà. Donc ma famille est originaire de Guadeloupe. Et plus loin en avant, il y a le fameux oncle Melville Blancourt.
Un héros dans la famille.
Et qui était un des dirigeants de la Commune de Paris, condamné à mort par tiers. Et qui a été exilé en Suisse et qui est revenu de Guadeloupe, député de la Guadeloupe à Paris. C'était un grand intellectuel qui a laissé des livres, d'ailleurs sur les faux noms, mais enfin voilà. Enfin, grosso modo, voilà d'où je descends.
C'était dans les gènes déjà, cet esprit révolutionnaire. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de photographier votre maman, Gérald Blancourt, mais comment vous nous la décririez ?
Ma mère était d'origine italienne, son père et sa mère étaient italiens. Et c'est une petite femme brune avec d'immenses cheveux qui arrivaient presque jusqu'au talon quand on était gamin. Et elle était toujours très sérieuse, très laïque et républicaine. Voilà ce que je peux dire d'elle.
Un papa qui vous a peut-être inspiré une plume poétique. Vous écrivez de lui, je me souviens de lui lorsqu'il partait à la recherche des trésors enfouis durant la guerre de l'indépendance en 1804 et qu'il n'a jamais trouvé.
Eh bien oui, parce que quand la révolution a été faite en Haïti, les colons et Français se sont sauvés et ils ont enterré des malles avec de l'or. En fait, c'est tout ce qu'ils avaient, qu'ils ont pu sauvegarder comme ça. Ils les ont enfouis. Et mon père, et comme tous les autres, comme tous ses copains, ils étaient toujours à la recherche parce que les légendes couraient. On disait là, il doit y avoir un trésor sous tel pied de manguier, etc. Et ils partaient, ils fouillaient la terre, ils cherchaient le trésor qu'il n'a jamais trouvé d'ailleurs.
Alors, pour prendre un petit peu plus de hauteur par rapport à l'époque et à la situation, qu'est-ce que vous diriez sur le climat entre les populations noires et blanches à l'époque ?
Ah bien, la masse des Haïtiens descendent des esclaves africains. Vous savez que plus de 30 ethnies africaines se sont croisées en Haïti. Et donc, les enfants issus des colons blancs et des femmes noires et des mulâtres, on les appelait les mulâtres, comme c'était des enfants des colons, les a affranchis, ils étaient affranchis, eux avaient accès à l'instruction, à l'école, au petit commerce, etc. Et les esclaves et les affranchis se sont unis et contre cette colonisation sauvage, et Napoléon est à cette époque au pouvoir en France, et avec Toussaint Louverture qui a été le héros de la révolution haïtienne, ça a été la première défaite de Napoléon et ça a été la première victoire d'un pays où il y avait des esclaves, donc l'indépendance a été proclamée en 1804. Et après, la coexistence a été difficile. D'abord, il y a eu le massacre de tous les colons survivants qui se sont sauvés, mais beaucoup ont été massacrés. Donc les affranchis qui étaient mulâtres et les noirs, et les affranchis étaient les seuls à savoir lire et écrire, donc ils se sont rapidement emparés du pouvoir, et ils ont commencé à exploiter leurs frères noirs. Donc il y a eu pendant plus de 100 ans, il y a eu des luttes entre la couche de la bourgeoisie mulâtre et la masse des paysans qui étaient en majorité noire.
C'est un vrai cours d'histoire. Oui. Question naïve, est-ce que vous vous sentiez un mélange de cette histoire ?
Ah ben bien sûr, je l'étais obligatoirement, parce que les petits noirs qui étaient mes copains avec lesquels je jouais, eh ben il m'appelait petit blanc. Vous voyez, bon, mais enfin, il m'aimait bien, et moi aussi, d'ailleurs, on s'aimait bien. Mes parents n'étaient pas du tout des racistes, alors mon père était mulâtre, donc on a vécu en ce qui nous concerne, en très très bonne harmonie, mais la bourgeoisie haïtienne mulâtre méprisait la majorité des pauvres gens qui étaient noirs. Il y a eu du mépris et puis une exploitation éhontée, d'ailleurs, que j'ai dénoncée dans quelques livres.
Quelle est la carte géographique de votre enfance ?
Haïti, on n'est pas très loin de Cuba. On est dans ce qu'on appelle les Grandes Antilles. Il y a Cuba d'un côté, un peu plus loin, et Porto Rico. Et puis encore plus bas, il y a la Martinique, la Guadeloupe, les Petites Antilles.
Alors vous êtes né en 1926, Gérald Blancourt, où exactement en Haïti ?
Je suis né à Benet, c'est un petit village, et pas loin de Jacmel. Et Jacmel est une ville du sud, qui était une des belles villes du pays à l'époque.
Et vos premiers souvenirs, vous dites qu'ils sont d'une rare violence entre le paludisme et puis les têtes qui tombent, pour reprendre votre image de tout à l'heure.
Oui, bien sûr, il y a eu... j'avais à peine un an quand un cyclone s'est abattu sur Benet. On a été emporté par ce cyclone, on a été sauvé parce que mon père était très solide, très fort, nous a tenus, ma mère et moi, et mes deux autres frères, maman Dédé, qui était notre nourrice haïtienne. Et après, nous avons habité Jacmel. Et Jacmel, quand j'étais gamin, je me rappelle de certains mouvements de révolte. Et je me rappelle qu'un jour, on n'avait pas le droit de sortir. J'étais dans la chambre, au premier étage, et la foule manifestait à l'extérieur, et j'ai vu passer une tête coupé, fiché sur une pique et qui avait passé dans la houle de la foule. Elle passait sous mes yeux et ma maman m'a aidé à fermer vite les volets pour que je ne vois pas ça, mais il y a eu le temps d'avoir. Et j'ai vécu comme ça dans beaucoup de violence. Après, il y a eu le cyclone de 1936.
Qui vous a amené à Port-au-Prince.
Oui, voilà.
D'accord. Alors, autre date clé de votre parcours, Gérald Blancourt, on va arriver très vite à 1946, le bel âge paraît-il, mais 20 ans est-il le bel âge réellement ? Puisque c'est l'âge où vous êtes expulsé du pays. Alors, vous allez nous raconter les circonstances historiques de cette expulsion.
Eh bien, c'était pendant la Grande Guerre, la guerre mondiale. Mon frère était venu en France en 1938 faire des études. Il avait une bourse. Et il a même été fusillé au Mont-Valérien à l'âge de 21 ans. Et en 1942, il fait partie des premiers héros de la résistance française. Et mon père était guadeloupéen, avait fait la guerre de 14-18. Donc on était tous avec la France contre l'Allemagne. On savait que l'Allemagne, c'était quand même... On apprenait que c'était des nazis. Enfin bon. Mais parallèlement, moi, je découvrais autour de moi toutes ces injustices sociales et je pensais qu'il fallait aussi faire quelque chose pour que ça change, qu'on ait une société plus juste. Donc c'est assez confus, assez mélangé dans ma tête à l'époque. Vous savez, je n'avais que 13 ou 14 ans. J'assistais à une première manifestation le jour où les Dominicains, enfin la police dominicaine, l'armée dominicaine a décapité, et je crois, plus de 15 000 Haïtiens, les coupeurs de canne à sucre. Ce sont des événements qui bouleversent. Quand on est jeune, on voulait faire changer les choses. Et avec mes copains, et nous avions décidé de renverser ce gouvernement qui était une dictature. Nous avons préparé cette révolution qui a éclaté en 1946. Le 7 janvier 1946, il y a eu les 5 glorieuses. Pendant 5 jours, nous avons lutté contre les forces du gouvernement. On a réussi à renverser ce gouvernement. Mais quelques temps après, il y a eu, et j'avais 19 ans à l'époque, et il y avait aussi le passage d'André Breton, d'Aimé Césaire, qui a mené...
Eh oui.
Et Césaire, évidemment, c'est un noir tellement cultivé que tout le monde était très fier de voir un type avec cette prestance. Donc, les jeunes ont commencé à s'intéresser à la littérature, à la culture, ont commencé vraiment à lire et à vouloir et comprendre et à savoir tout ce qui se passait. Ensuite, Breton a été invité et Breton est arrivé au moment où nous préparions l'insurrection. Et ensuite...
Et au terme de cette insurrection, finalement, vous arrivez, votre carteron, comme on l'appelle, arrive à renverser le dictateur Elie Lescot, et pourtant ça tourne mal pour vous.
Eh bien, parce qu'il y a eu la contre-révolution, une jeune militaire s'est emparée du pouvoir, aidée, soutenue par les Américains, et à ce moment, bon, j'étais arrêté d'ailleurs à plusieurs reprises, mais en fait j'étais arrêté, expulsé de mon pays, et à travers mon voyage qui m'a conduit de République Dominicaine en Martinique, je suis arrivé en France en 1946.
Alors quand vous arrivez en terre des droits de l'homme, comme on dit, du côté du Havre,
oui,
je crois.
J'ai débarqué au Havre, oui.
Quelles sont vos premières impressions, Gérald Blanco, hein?
Ah ben, je suis arrivé au Havre. Pour moi, la France était le pays de la culture, le pays des grands écrivains extraordinaires. Mon premier contact, c'était un douanier qui a accepté de signer. Vous savez, il avait la craie à cette époque. Il faisait une petite croix sur les valises pour passer. Et je lui ai offert... on m'avait dit, tu offres une cigarette et puis il va te signer ça tranquillement. J'ai lui ai offert une cigarette. Il a mis la main sur le paquet. Le paquet a disparu. C'est un prestidigitateur. Et donc, c'est mon premier contact avec la France. Je me suis dit, c'est ça la France.
La corruption.
Et la corruption. Et puis dans la nuit, j'étais avec des copains que j'avais rencontrés, des Martiniquais, des Guadeloupéens qui étaient étudiants, qui venaient faire leurs études en France. Le Havre était en ruine et il y avait des prostituées. Et c'est là que j'ai découvert ces prostituées comme ça. Je me suis dit, pas possible, un pays comme la France, bon, on était un peu scandalisés.
Donc on va refermer cette première partie dans Sol majeur avec le drapeau rouge. Pourquoi vous l'avez choisi ce chant révolutionnaire, Gérald Blanco?
Bien parce que ça m'a rappelé un peu mon arrivée en France. Quand, dans les manifestations, je l'ai entendu chanter à plusieurs reprises. Et ce sont des chants de l'époque, un peu naïfs par certains côtés, mais quand même qui montre cette espèce d'espoir, d'espérance, de changement social que j'ai toujours dans mon cœur d'ailleurs. Encore aujourd'hui, je pense que la société devrait être différente.
On l'écoute, ce drapeau rouge.
Du sang partout de larmes, toujours souffrir des tristes sorts, mais nous prendrons un jour nos armes, soyons réunis et forts, soyons tous réunis et forts, tous debout et les temps en avant, quittons les plaines de misère, l'horizon est déjà tout ensemble, l'aube se lève mes frères, frères suivez votre bannière, tachez du sang des innocents.
Oh my. hommage à Justin Bailly, créateur en 1870 donc de ce chant révolutionnaire Le Drapeau Rouge, et qui fait partie du programme en sol majeur de Gérald Bloncourt, notre invité qui revient en seconde partie d'émission nous parler de Georges Brassens, du cochon grillé et de son amour de toujours, Haïti. À tout de suite.